Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Yoma, page 67, Dav Samer Zain. Bonne écoute et bon limoud.
Tishim Ris, c'était donc une distance de 90 Ris. Shiva Omerta le Kol Mil, il y avait 7 Ris et demi pour chaque mille. Nous savons que un mille est une distance de 2000 coudées. Il se trouve donc que pour chaque ris, était une longueur de 266 coudées et 2/3 de coudées. Ainsi, nous voyons en compte que la distance entre la ville de Yerushalayim et le rocher par-dessus lequel on basculait le bouc était de 12 000, soit 24 000 coudées. Dans la Maseret Rovini, il est expliqué qu'une personne a le droit de marcher autour de la ville où il habite, donc 2000 coudées de chaque côté. Il se trouve donc que les notables de Yerushalayim qui accompagnaient celui qui emmenait le bouc marchaient pour accompagner cette personne jusqu'à la première cabane qui était située à 2000 coudées de Yerushalayim. C'était la même distance aussi qui séparait chacune de ces cabanes. Dans chacune des cabanes, il y avait des gens qui étaient restés spécialement pour toute la journée de Yom Kippour. Alkol suka v'suka, omrim lo, haremazon v'haremayim. Alors les gens qui étaient dans ces cabanes disaient à chaque fois qu'il arrivait dans une de ces cabanes, ces gens lui disaient, voici, il y a de la nourriture, il y a de l'eau. Et ce n'est pas qu'il avait le droit de manger. La Gemara expliquera pourquoi les gens, on lui disait de ces choses-là. Om la vinoto misuka l'suka, et ceux qui étaient siégés dans cette cabane l'accompagner jusqu'à la prochaine cabane, Chutz Me'acharon Shebaim, à part le dernier, donc ceux qui habitaient dans la dernière, ceux qui siégeaient dans la dernière cabane, chez Nomagia Imolatsuk, ils n'arrivaient pas, ils ne l'accompagnaient pas jusqu'au rocher, parce qu'en fait le rocher était distant de la dernière cabane de 2000, 4000 coudées, donc ils ne pouvaient marcher, l'accompagner que sur une distance de 1000, 2000 coudées. Et là, Omed Merachok, il se tenait debout au loin, Vero et Massav, et voyait comment il accomplissait cette mitzvah de faire basculer le bouc par-dessus le rocher. Maya aussi, quand il arrivait au rocher, qu'est-ce que celui qui emmenait le bouc devait faire? Cholek Lachon Shuzurit, il partageait une bande de laine en forme de langue teinte en rouge. Chetio Kashur Besela, la première moitié de cette bande était attachée au rocher, le Chetio Kashur Ben Karnav, et il attachait la deuxième moitié entre les cornes du bouc. Darfo Leachorav, il le poussait par derrière, Vomit Galgel Vioret, et dégringolait en tombant, Velo Haya Magia Lechatiahar, il n'arrivait même pas jusqu'à la moitié de la montagne, Achenase Evarim Evarim, jusqu'à ce qu'il s'était déchiqueté en plusieurs membres. Il retournait en arrière jusqu'à la dernière cabane, sur une distance de 4000 coudées, jusqu'à la tombée de la nuit. En fait, pour la mitzvah d'accompagner le bouc, d'amener le bouc, il avait le droit de marcher jusque là où il devait arriver. Après avoir accompli la mitzvah, il aurait dû rester sur place, ou peut-être juste marcher une distance de 2000 coudées, mais pas plus. Mais les Chachamim ont fait ici une dérogation parce que pour ne pas que la personne qui amène ce bouc dans le désert ne s'inquiète de rester tout seul jusqu'à la nuit dans le désert, ils lui ont permis donc de revenir jusqu'à la dernière cabane. Le Passouk dit que celui qui amène le bouc devenait impur au point de rendre les habits qu'il porte impurs. Oumé Matay Metame Begadim, à partir de quel moment ces habits deviennent impurs? Mishiata Chutz Lechomat Yerushalayim, dès qu'il sort de la muraille de Yerushalayim. Rabbi Shimon Omer dit, Mishat Dechiyato Latsouk, à partir du moment où il fait basculer le bouc par-dessus le rocher. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Eser Sukkot Ushneim Asar Milim Hayu. Il y avait 10 cabanes sur le parcours de la personne qui devait amener le bouc jusqu'au désert, jusqu'à la montagne, et c'était une distance de 12 000. Donc soit 24 000 coudées, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, d'ivrei, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Omer dit, Tesha Sukkot, Da Saramili. Il y avait 9 cabanes sur son parcours, et sur une distance, répartie sur une distance de 10 000, soit 20 000 coudées. Selon cet avis, les cabanes étaient espacées l'une de l'autre d'une distance de 1 000, 2 000 coudées, et entre la ville de Yerushalayim et la première cabane, il y avait aussi 2 000 coudées. Mais ce qu'il y avait de particulier ici, selon cet avis, c'est qu'entre la dernière cabane et le rocher, il y avait aussi seulement 2 000 coudées, et donc ceux qui siégeaient dans la dernière cabane pouvaient accompagner celui qui emmenait le bouc jusqu'au rocher. Rabbi Yosef Omer dit, Chamesh Sukkot da Saramilim Hayu. Il y avait 5 cabanes réparties sur son parcours, sur une distance de 10 000, soit 20 000 coudées. De Kulam Aledeirouv, mais ceux qui siégeaient dans les cabanes accompagnaient celui qui emmenait le bouc sur une distance de plus de 2 000 coudées, et cela parce qu'ils avaient fait un Eruv Troumi. C'est pourquoi donc il suffisait de construire 5 cabanes avec des gens qui siégeaient dedans. Alors, le Eruv Troumi est une manière de transposer l'endroit où la personne siège en ce jour de Shabbat, en plaçant à une distance, par exemple, de 2000 coudées de la ville, de quoi faire deux repas. Et ainsi, nous considérons qu'il habite maintenant, non pas dans la ville où il est maintenant, mais là où il a déposé ce repas. À ce moment-là, il peut, à partir de cet endroit, marcher sur une distance de 2000 coudées de chaque côté. Donc, à partir de l'endroit où il siège, il peut marcher sur une distance de 4000 coudées. Bien sûr, sur le côté opposé, il ne pourra pas du tout marcher. En tout cas, là aussi, nous voyons, selon l'avis de Rabbi aussi, que ceux qui siégeaient dans la dernière cabane accompagnaient celui qui emmenait le bouc jusqu'au rocher où il faisait basculer le bouc. Amar a dit Rabbi aussi, « Sakhli Elazar Bani, mon fils Elazar m'a dit, en rigolant, « Ima les déhérouf, si tu tiens compte du Eruv Troumin, c'est-à-dire tu disais que les gens qui siégeaient dans les cabanes ont fait un Eruv Troumin, je pourrais même me suffire de 2 cabanes sur une distance de 10 000, soit 20 000 coudées. » Ce sera donc de cette manière, les notables qui auraient accompagné celui qui emmène le bouc auraient fait un Eruv Troumin, donc pourrait marcher sur une distance de 2000, sur 4000 coudées. À cet endroit, viendraient les accueillir une partie des gens siégeant dans la première cabane, aussi par le moyen d'un Eruv Troumin, donc ils pourraient marcher dans ce sens 4000 coudées. Donc il se trouve donc que la première cabane aurait pu être située à une distance de 4000 coudées. 4000, soit 8000 coudées de la ville de Yerushalayim. À partir de cet endroit, les autres personnes qui siégeaient dans cette cabane, qui auraient fait au préalable un Eruv dans l'autre sens, donc auraient pu l'accompagner sur une distance aussi de 4000 coudées, puis viendraient les accueillir à cet endroit une partie des gens siégeant dans la deuxième cabane, aussi sur une distance de 4000 coudées par le moyen d'un Eruv. Et donc, la deuxième cabane pourrait être éloignée de la première cabane d'une distance de 8000 coudées. Et puis, les autres personnes siégeant dans la deuxième cabane pourraient accompagner celui qui emmène le bouc sur une distance aussi de 4000 coudées par le moyen d'un Eruv, comme nous l'avons expliqué. Donc, il se trouve qu'on se suffirait de 2 cabanes sur une distance de 20000 coudées. En fait, Rabbi Lazar n'a pas vraiment voulu poser de questions contre Rabbi aussi, parce qu'il est très difficile de coordonner la rencontre de 2 personnes venant d'une telle distance. C'est pourquoi les Chachamim ont quand même institué de construire 5 cabanes tout au long du parcours de celui qui emmenait le bouc. C'est une annotation du Tosfot Arosh. La Gemara demande, « Keman azlah de Tanya, selon quel avis va ce qu'on a vu dans la Mishnah, « Chutz mi acharon shebaim shelo higiaim olatsuk » Donc tout le monde, ceux qui siégeaient dans les cabanes, accompagnaient celui qui emmenait le bouc d'une cabane à l'autre, ou bien jusque là où il devait arriver, à part le dernier. Celui-ci ne l'accompagnait pas jusqu'au rocher, et là, Omed Mirachok Boroet Maasav, seulement se tenait au loin et regardait ce qu'il faisait. Alors, comme qui va cet avis, c'est-à-dire nous voyons, nous comprenons que ceux qui siégeaient dans la dernière cabane ne pouvaient pas l'accompagner jusqu'au rocher parce que le rocher était trop éloigné. Keman, qui est Rabbi Meir. Cette Mishnah va selon l'avis de Rabbi Meir, qui disait, rappelons-le, qu'il y avait 10 cabanes réparties sur une distance de 12 000, soit 24 000 coudées. Donc chacune était espacée l'une de l'autre de 2 000 coudées. La dernière était éloignée du rocher d'une distance de 4 000 coudées. On prend le passage de la Mishnah qui dit « Al-Kol Souka B'Souka Omrim Lo Harem Azam Varemaim » Chaque fois qu'il arrivait dans une des cabanes sur son chemin, ceux qui siégeaient dans la cabane lui disaient « Voici du manger, voici de la boisson, de l'eau. » Tana, il a été enseigné dans une Braïta, « Me'olam l'autra khadam l'kar » Jamais une personne qui a emmené le bouc n'a eu besoin de manger pendant le Yom Kippour. Et là, chez Enodomé, Michel Lopat Bessalo, les Michel Lopat Bessalo. Seulement les Chachamim ont institué de dire comme ça, parce que on ne peut pas comparer une personne qui a du pain dans sa corbeille à quelqu'un qui n'a pas de pain dans sa corbeille. Il est vrai qu'une personne qui a du pain dans sa corbeille souffrira moins de la famine que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Il souffrira beaucoup, beaucoup plus de la famine. Là, comme c'est un jour de jeûne, donc il ne mange pas. Si en plus tu sais qu'il est éloigné de toute habitation, il n'aura pas la possibilité de manger s'il se trouve mal, il souffrira beaucoup plus. C'est pourquoi, pour le rassurer, on lui disait que voilà, il y a à ta disposition de la nourriture et de la boisson. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Maïa osé cholek lachon shel zehurit » Qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait au rocher? Il partageait en deux la bande de laine peignée teinte en rouge qui était destinée à cet usage. La Gemara demande, Vinik Terekoule Bessela, il n'avait qu'à attacher entièrement cette bande sur le rocher, pourquoi est-ce qu'il a besoin de la partager? La Gemara répond, qui va de mitzvah Bessaïr, puisque la mitzvah est de faire basculer le bouc par-dessus le rocher, Dilma Kadim ou Malbin, il se peut qu'une fois, après avoir attaché cette bande de laine sur le rocher, il se peut qu'elle blanchisse tout de suite, ou Miatva Date, et il risque donc de se calmer, d'oublier en fait qu'il doit encore faire basculer le bouc par-dessus le rocher. C'est pourquoi les Chachamim ont institué d'attacher seulement une partie sur le rocher, l'autre partie en premier, l'autre partie, il devait l'attacher en dernier autour des cornes du bouc. Comme il s'occupait du bouc, il se rappellera de le faire basculer, même si la laine a blanchi. Il n'a qu'à attacher entièrement toute cette bande de laine entre les cornes du bouc. Pourquoi est-ce qu'il devait la partager? La Gemara répond, Zimin de Gamishle le Réché. Il se peut des fois que le bouc baissera sa tête, Vela va dater, et ne pourra pas voir donc cette laine blanchir. Tanou Rabbana, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Barishona, Hayu Koshrim, Lachon Shil Zeurit. Au départ, ils attachaient cette bande de laine peignée teinte en rouge, Al Petach Haoulam Ibachutz, sur la porte extérieure. Sur la porte du Oulam à l'extérieur, de manière à ce que tout le monde puisse voir ce miracle s'accomplir, que cette laine teinte en rouge blanchissait. C'était un signe que les fautes, les péchés du Klal Israël étaient pardonnés. Hilbin Hayus Mechim, quand cette laine blanchissait, tout le monde était joyeux. Lo Hilbin, quand cette laine ne blanchissait pas, Hayu Asedim Umit Baishim. Tout le monde était triste et honteux. C'est en fait parce qu'ils n'avaient pas mérité de voir ce miracle s'accomplir, où les péchés n'avaient pas été entièrement pardonnés. Hitkinu, Sheyu Koshrim, Al Petach Ulam Mibifnim. Les Chachamim ont institué d'attacher cette bande de laine rouge sur la porte du Ulam de l'intérieur. Comme ça, c'est parce que ça se reproduisait assez souvent, et comme ça, tout le monde ne pourrait pas voir directement cette laine quand elle ne blanchissait pas. Be'adain Hayu Metitzim Veroim. Et quand même, ils trouvaient le moyen de pouvoir voir si cette laine blanchissait ou non. Bien que les Bnei Israël n'avaient pas le droit de rentrer dans le Oulam, il se trouvait des fois des Kohanim qui rentraient voir. Hilbin, Hayus Mechim, quand cette laine blanchissait, tout le monde était joyeux. Lo Hilbin, Hayu Atsedi, si cette laine ne blanchissait pas, tout le monde était triste. C'est pourquoi, dites qu'il nous, chez Yu Koshrimoto, les Chachamim ont institué de l'attacher, Chetzio Baselab, Chetzio Ben Karnav, la moitié sur le rocher et l'autre moitié entre les cornes du bouc. Ainsi, ce n'est que celui qui amenait le bouc qui voyait si cette laine avait blanchi ou pas. Amar dit Rav Nachmoun, Bar Papa Meshum Rabbi Lazar Kapar, Barishona, au départ, Hayu Koshrim Lachon Shel Zehurit, ils attachaient cette bande de laine peignée teinte en rouge al Petach Ulam Bifnim, sur la porte du Ulam à l'intérieur, mais Kivan Shegi Aser la Midbar, dès que le bouc arrivait dans le désert, donc il était basculé par-dessus le rocher, Hayam Albin, cette laine blanchissait, Viad Ushinasit Mitzvato, et tout le monde savait que la mitzvah a été accomplie et le bouc a été basculé par-dessus le rocher. Chez Nehemar, les Chachamim ont appris que ce miracle se produisait du pasouk suivant. Im yu chateichem kashanim, si vos péchés étaient aussi rouges que la laine peignée teinte en rouge, kasheleg yalbinu, ils blanchiront comme la laine. C'est un signe donc que les péchés allaient être pardonnés. Le hayam agyal machatita. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit que le bouc n'arrivait pas jusqu'à la moitié de la montagne, que ses membres étaient déchiquetés. Ibaileu. Une question a été posée. Otam Evarim Mahem Bana. Est-ce que on a le droit de tirer profit de ses membres une fois qu'ils sont arrivés en bas de la montagne ou non? Rabbi Shmuel. L'Agma a dit qu'il y a une discussion entre Rabbi Shmuel. Chadamar, un de ces deux Amoraïm dit Mutarim. On a le droit de tirer profit de ses membres. Khadamar Asurim, et l'autre dit qu'on n'a pas le droit de tirer profit de ses membres. Mandama Mutarim, celui qui dit que ses membres étaient permis, on avait le droit d'en tirer profit.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Samerzan Amudbet. Une directive, il l'apprend du Pasouk, qui parle du bouc émissaire. Le Pasouk dit, il enverra le bouc Bamidbar dans le désert. Ce terme étant trop, puisque la Torah le dit à plusieurs reprises dans ce paragraphe que ce bouc sera envoyé dans le désert, nous apprenons de là que ce bouc sera comparé au désert. De la même manière que tout ce qui se trouve dans le désert est permis, on a le droit de le prendre et d'en tirer profit, alors aussi les membres du bouc seront permis ou pourront en tirer profit. Ou même Damar Asurim, et celui, l'avis qui dit que ses membres étaient interdits, on n'a pas le droit d'en tirer profit, Dirtiv, il apprend du Pasouk qui dit et le bouc portera tous les péchés de Bnei Israël et les redressera à un pays déchiqueté. Alors le terme de xéra peut être traduit d'une autre manière, on voudra dire aussi décret ou interdiction. Nous comprenons de là que ce bouc sera interdit. La Gemara demande au Mandamar Asurim et celui qui dit que les membres sont interdits, on n'a pas le droit d'en tirer de profit, Haimit Bar Mayavidle, comment il interprète le pasouk de Midbar, puisque nous avons expliqué plus haut que c'est un pasouk qui est en trop. L'Agma répond, Mibaele, il l'utilise avec des Tanya, comme nous avons vu dans une Braïta. Le pasouk dit à plusieurs reprises que ce bouc sera envoyé dans le désert, donc le pasouk dit Hamidbara, Hamidbara, Bamidbar. Alors c'est le premier pasouk dit de la manière suivante, le bouc désigné par le sort à servir de bouc émissaire, restera debout devant Hachem, etc., pour être envoyé à Azazel, Hamidbara. Deuxième pasouk dit, et après la confession, il mettra les, pour ainsi dire, les fautes sur la tête du bouc, et enverra le bouc par le moyen d'une personne désignée pour se faire Hamidbara, dans le désert. Et le troisième pasouk dit, et il enverra le bouc dans le désert, Bamidbar. Alors, à trois reprises, le pasouk emploie le terme de Bamidbar pour enseigner que ce n'était pas seulement pendant la période du Mishkan, donc dans le désert, que ce service du bouc émissaire était accompli, mais les Rabot, Nov, Vegivon, Shiloh ou Betolami, pour inclure même pendant la période où le Mishkan était siégé dans les villes de Nov et Givon. Donc ça c'est un pasouk, puisque c'était deux périodes qui se suivaient. Le deuxième pasouk vient nous inclure que quand le Mishkan était à Shiloh, aussi ce service était accompli, et aussi quand dans le Bet HaMikdash. Veidar, et celui qui dit que ses membres étaient permis, Hay Gezera Maya Vidle, comment il interprète ce terme de Gezera? Alors, l'agma répond, Mipaïlé, il utilise le Gzitania comme nous avons vu dans une braïta. Gzera, que veut dire le terme de Gzera? En Gzera, Ela Khatoucha. Il s'agit d'envoyer le bouc dans un pays ou une montagne escarpée, où il y a beaucoup de rochers tranchants. D'abord à faire, deuxième explication, En Gzera, Ela Davar Amikazer Vioret. Le terme de Gzera se rapporte au bouc. Le passage veut dire donc que le bouc sera envoyé dans un endroit où il sera déchiqueté. D'abord, troisième explication, Gezera, le terme de Gezera veut dire comme ça. Shema Tomar Masetohu, peut-être tu diras que le fait de l'envoyer dégringoler par-dessus les rochers est un acte sans signification. Talmud Lomar, pourquoi le pasuk dit Ani Hashem, je suis Hashem, qui veut dire Ani Hashem Gezartiv, c'est moi Hashem qui a ordonné ou décrété cette mitzvah. Donc là, intervient le terme de Gzera, et tu n'as pas le droit de réfléchir après cette mitzvah, à savoir pourquoi Akash Boko a ordonné une telle mitzvah. Amar Adi Rabba, Mistabra Kamandama Mutarim. Il sera plus logique de dire, comme l'avis qui dit que les membres du bouc, une fois qu'ils sont tombés en bas de la montagne, ces membres sont permis, on a le droit d'en tirer profit, parce que Lo Amra Torah Shlach Letakala. En général, nous disons que la Torah ne dit pas d'envoyer un objet dans la nature qui puisse causer des problèmes, ou des gens qui le trouvent puissent en tirer profit. Tanu Rabbanan, nos Chachamim m'ont enseigné dans une braïta. Azazel, le terme de Azazel veut dire Shehe Az Vekashé. Ce terme de Azazel est en fait, selon cette interprétation, une contraction de deux mots, Az et El. Le terme de El sera expliqué dans la braïta suivante. En tout cas, il faudra donc que ce soit une montagne, Az qui veut dire imposante, Vekashé et dure, qui veut dire rocailleuse. Donc ce sera une montagne escarpée et rocailleuse. Yachol Baishu, j'aurais pu croire qu'on puisse envoyer le bouc dans une montagne qui soit dans un endroit habité. Talmud Lomar, pourquoi le Pasuk nous dit Bamidbar, dans le désert. Donc cette montagne sera dans le désert. Omilan Shabatsuk, d'où est-ce qu'on sait que le bouc sera basculé par-dessus un rocher? Talmud Lomar, pourquoi le Pasuk nous enseigne Gezera. Le terme de Gezera, on l'a vu plus haut, est un rocher ou des rochers tranchants par lesquels le bouc sera déchiqueté. Tanyaïda, nous voyons dans une deuxième raïta. Azazel, Kaché Shebehari, le terme d'Azazel. Ce terme de Azazel, comme on l'a vu plus haut, est une contraction de deux mots. Dans la braïta précédente, nous avons expliqué le terme de Az, qui veut dire imposant. Là, la braïta interprète le terme de El, qui veut dire Kaché Shebehari, la montagne la plus dure, donc la montagne rocailleuse, le Hen Omer. Et ainsi, le pasouk dit dans Echeskel, c'est une prophétie du Echeskel qui parle de la destruction du Bétamigdash. Il dit donc, le roi de Babel viendra en Eretz Israël, prendra tout le monde en exil, et prendra ou aura pris les puissants de la terre. Donc le terme de El veut dire puissant ou fort ou dur. Tana de Rabbi Ishmael, il a été enseigné dans le Bétamidage de Rabbi Ishmael. Azazel, le terme de Azazel veut dire Shemechaper al-Maase Uza be Azael. Le service concernant le bouc émissaire obtient le pardon sur les actions faites par Uza et Azael. Ce sont deux anges qui sont descendus du ciel à la période du déluge. Et ils sont transformés en hommes et se sont adonnés à la débauche et à l'adultère. En d'autres termes, le bouc émissaire pardonnera les fautes de la débauche et de l'adultère. Tanu Rabbanan, nos Chachamim m'ont enseigné dans une braïta. Le pasuk dit, et mishpatai ta'asu, vous accomplirez mes jugements. Il s'agit de dvarim sheimale lo nechtevu, dimem dilhu sheichtevu. Il s'agit de mitzvot, que même s'ils n'avaient pas été écrits dans la Torah, il aurait été logique de les écrire et de les accomplir. Ve'eluhem, ve'eluhem, et ce sont les mitzvot qui suivent. Avodat kohavim, l'idolâtrie. Si on reconnaît le Créateur, il est logique d'adorer seulement le Créateur et non pas d'autres choses futiles. Vigilo ha'arayot, et l'adultère et la débauche, ou shfichut damim, et l'assassinat, le gezel et le vol, ou birkat Hashem, et la blasphémation. Et chukotai tishmeru, le pasuk continue, il dit, vous garderez mes lois, il s'agit ici de dvarim shah satan meshib alehem. Ce sont des mitzvot que le satan et Tehara incite les gens à transgresser, parce qu'on ne voit pas la raison pour accomplir une mitzvah. Cette mitzvah, Beluhem, et ce sont ces mitzvot.
Akela Trazir, l'interdiction de manger du cochon, ou l'ishat shatnez, et l'interdiction de porter un habit où sont mélangés du lin et de la laine, de Khalitsat Yibama, et la mitzvah de, qui consiste à déchausser la personne qui ne veut pas accomplir la mitzvah de Yiboum, qui est de se marier avec la femme de son frère qui est mort sans laisser d'enfant. C'est après la Khalitsa qu'elle pourra se marier, de Taharat Metzora, et les actions qui consistent à purifier le lépreux après la guérison de sa lèpre. Entre autres, le Kohen devait prendre un bouquet consistant d'un oiseau vivant et d'un morceau de bois de cèdre, un morceau d'une branche de hésope et un morceau de laine peignée teinte en rouge, le tremper et tremper ce bouquet dans de l'eau qui contient de l'eau d'un autre oiseau dont on a fait la shrita, et cela il fallait ainsi asperger sur le lépreux. Le lépreux devait aussi se raser, et le huitième jour, il devait se raser à nouveau et amener des corbanotes, asperger du sang du corban Hacham sur le lobe de son oreille, sur son pouce et sur son gros orteil. Donc ce sont tout ça des actions dont on ne comprend pas la signification. Le Seir HaMishtaleach et le service concernant le bouc émissaire. De Shema Toma Masetohem, peut-être que tu diras que puisque c'est des actions sans signification, donc on n'a pas besoin de les faire. Talmud Lomar, c'est pourquoi le Pasuk dit Ani Hashem, je suis Hashem. Enfin, ce Pasuk est écrit à la suite du Pasuk Etrukota et Tassou, Tishmeru. Cela veut dire Ani Hashem Chakatib, c'est moi qui a décrété, institué ces lois. Ben Echaveshut, la Rebahem, tu n'as pas le droit de réfléchir quant à la signification de ces choses. En fait, c'est le mitzvot. Sont là pour les accomplir parce que je vois qu'on les a redonnés et non pas parce qu'on comprend la signification. Ematai metame begadim. L'agma reprend le passage de la Mishnah qui dit à partir de quand celui qui amène le bouc devient impur au point de rendre ses habits impurs. Nous avons vu une discussion à ce sujet. Le Tanakama disait que c'était dès qu'il sortait de la ville de Yerushalayim, alors que Rabbi Shimon dit c'était à partir du moment où il pousse, fait basculer le bouc par-dessus le rocher. Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans un vrai temps. Metame Bodadim. Celui qui emmène le bouc deviendra impur au point de rendre ses habits impurs. Ven Acholeach et Amchaleach. Metame Bodadim. Par contre, ceux qui accompagnent celui qui emmène le bouc ne deviendront pas impurs au point de rendre leurs habits impurs. Yachol Mishetse Chutz Lochomat Lazara. J'aurais pu croire que cette personne devient impure à partir du moment où il sort de la muraille de la Hazara, du Betamigdash, Talmud Lomar. C'est pourquoi le Pasuk dit Hameshaleach, donc celui qui envoie le bouc, la Hazazel. Il faudra donc comprendre au moins qu'il commence son envoi pour devenir impur, donc au moins à partir du moment où il sort de la vie. Alors la Braïta demande Hameshaleach, si on interprète le terme de Hameshaleach à la lettre, en fait le Pasuk continue celui qui envoie le bouc, la Hazazel. Alors j'aurais pu croire Yachol Hachadgir Hatzouk, qu'il ne devient pas impur jusqu'à ce qu'il arrive au rocher par-dessus lequel le bouc sera basculé. Talmud Lomar, c'est pourquoi le Pasuk dit Vermeshalach est celui qui envoie. C'est-à-dire le début du Pasuk qui parle de l'envoi, on comprend bien qu'on parle du début de l'envoi. Donc déjà à partir de ce moment, il deviendra impur. Haketzad, donc comment on interprétera le Pasuk? Puisque d'un côté, on comprend du Pasuk à partir du début de l'envoi et de la fin du Pasuk que nous prenons dès qu'il arrive, à partir jusqu'au moment où il arrive au rocher. Il restera pur. Michel Sachus Lochomat Yerushalayim. À partir du moment où il quitte la muraille de la ville de Yerushalayim, donc on peut considérer comme s'il est déjà dans le désert, mais il n'est pas encore arrivé au rocher. Déjà à partir de ce moment, il deviendra impur. Divrei, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer dit Azazel Vekibes. Puisque le pasouk, le terme de Vekibes, où le pasouk dit il lavera ses habits, est écrit immédiatement après le terme de Azazel. Nous comprenons donc Ad Sheigi Alatsouk, jusqu'à ce qu'il arrive au rocher par-dessus lequel le bouc sera basculé, il restera pur. Il deviendra impur qu'à partir du moment où il arrive au rocher. Rabbi Shimon Omer dit Vameshaleach et Asahir l'Azazel et Chabez Begadav. Celui qui envoie le bouc, l'Azazel, donc dégringolé dans la montagne, lavera ses habits. Alors, il interprète de cette manière Zorko Bebatroche, il le fait basculer par-dessus le rocher, ou Metamev Gadim, et à ce moment-là, il deviendra impur au point de rendre les habits qu'il porte impurs. Nous avons fini le shiur de Yom Adar Samech Zayin. Nous commençons le shiur de Yom Adar Samech Hev. Nous commençons de Samech Zayin Amud Bet en bas de la page à la Mishnah. Balo etel par v'sayir anisrafim. Après avoir envoyé le bouc émissaire, le Kohen Gadol s'approchait du taureau et du bouc qui ont été employés pour le service de Yom Kippour et qui doivent être brûlés à l'extérieur de Yerushalayim. Car an, ils ouvraient leur abdomen, ve'otsir tibourim, et faisaient sortir les graisses, les différentes parties qui devaient être brûlées sur le misbéach. Metanan b'megis, ils les déposaient dans une cuvette qui a la gdusha spéciale des ustensiles de service, ve'tiram al gabe misbéach, et ainsi les faisaient monter sur le misbéach pour les faire brûler. Kal'an b'makleot, ils plaçaient le taureau et le bouc l'un sur l'autre et enlaçaient leurs pattes de manière à former une espèce de tresse, et ainsi les posaient sur deux bâtons de bois espacés l'un de l'autre de manière à former une espèce de brancard portée par quatre personnes. Votiens le bet asrefa, et ainsi les faisaient sortir à l'endroit où ils avaient été brûlés, à l'extérieur de Yerushalayim. Umei matal metamim gadim, et à partir de quand ceux qui s'occupent de faire brûler ce taureau et ce bouc deviennent impurs au point de rendre leurs habits qui portent aussi impurs. Mishias ou chutz lechomat hazara. La Mishnah explique à partir du moment où ils sortent de la muraille de l'Hazara, déjà ils sont considérés comme faisant partie de ceux qui font brûler le taureau et le bouc. Rabbi Shimon Omer dit Mishiatzit haor berubam, à partir du moment où le feu prend dans la majeure partie de ce taureau et de ce bouc. Alagmara demande, Vihiktiran Salkadatar, est-ce que c'est maintenant le moment où il offrait les graisses de ce taureau et de ce bouc sur le misbéar? C'était beaucoup plus tard dans le service de la journée, comme nous le verrons plus loin dans Daf Ayin. Entre temps, il devait lire dans la Torah, et après se purifier dans un mikvé et changer d'habit. Il devait porter les habits d'or pour offrir son bélier et le bélier public. Et ensuite, une deuxième fois, se purifier dans un mikvé et changer d'habit, porter les habits de lin blanc, pour sortir la cuillère et la pelle du Kodesh HaKodashim, et puis une troisième fois se purifier dans le mikvé et changer d'habit pour porter les habits d'or et offrir le korban moussaf, et c'est seulement après qu'il offrait les graisses de ce korban khatat. La Gemara répond Ela Ema lehaktiram al gabe misbeach. Il faudra comprendre comme ça dans la Mishnah qu'en fait il posait ses graisses dans une cuvette et c'est pour les préparer à les offrir sur le misbéach. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que Kal'am de Makleot, il plaçait le taureau et le bouc l'un sur l'autre et enlaçait leurs pattes pour en faire une espèce de tresse. Amar a dit Rabbi Yochanan, Kimin Kliya, il les plaçait de manière à ce qu'ils forment une tresse. Tana, il a été enseigné dans une braïta. Lo hayam enatra nitoar basar ola, ces animaux, donc ce taureau et ce bouc, n'étaient pas découpés comme on le découpait un animal offert en tant qu'orban ola. Cette découpe était faite après le dépeçage. Et là, or al gabe basar, pour ce taureau et ce bouc, la découpe se faisait avant le dépeçage, quand la peau était encore sur la chair. Maintenant, le milé, on m'a demandé où est-ce qu'on le sait, on m'a répondu Tania, parce que nous voyons dans une braïta. Rabbi Omer dit, Neemar kan or ou basar ou perech, à propos du taureau du bouc, la Torah dit qu'il faudra brûler la peau, la chair et les excréments. Le langage du pasuk est et orotam vet besaram vet pircham. Benemar le'alam, et à propos du taureau que le Kohen Gadol devait offrir s'il avait fauté par mégarde, il est écrit or ou basar ou perech, aussi il faudra brûler la peau, la chair et les excréments. Là-bas, le langage du pasuk est vet or hapar vet kol besaro, et la peau du taureau et sa chair, al rosho al krav, en plus de sa tête et de ses pattes, vekirbo ou piocho, et ses entrailles et ses excréments.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.